France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, je suis dans la rue pour rejoindre mon bistroscopie où m'attend Swann Arlo pour l'apéro. Vous l'avez vu dans Petit Paysan, dans Anatomie d'une chute ou dans la série Dans l'ombre, tiens. Il est aussi flegmatique que un peu vénère aussi. Et donc ça m'intéresse beaucoup cet alliage.
Oh, mais quel accueil!
Bonjour Swann Arlo.
Bonjour,
comment allez-vous?
Comment ça va?
Mais j'adorerais vous embrasser, mais je commence un petit rhume.
Oui, bah non,
on se check.
On se check, ouais.
Le jour où je reçois Swann Arlo, je peux pas l'embrasser. C'est affreux.
Comment ça va?
Ça va bien et vous?
Ouais, super.
Bon, résultat, les samedis soirs, c'était à théâtre, quoi. Ça sort plus là. C'est.
Ah bah non, ouais. Mais moi, j'ai pas trop envie de sortir, j'ai plutôt envie de me coucher tôt. Ouais.
C'est une assaise le théâtre quand même, non?
Ouais.
Bon, on va faire une assaise assise. Venez, on va aller.
Faisons une assaise assise, très bien.
Charlie Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Alors comme ça, j'ai devant moi le sexy lawyer d'Anatomie d'une chute. Donc le plus grand sex symbole français selon les Américains. Ça s'est tassé depuis un an, ça ou pas, Swann Arlo?
Je crois, oui, je crois.
Un peu, ouais. Il paraît qu'il y a même des vidéos de jeunes coréennes qui s'extasient devant vous, hein.
Je sais pas.
Si, vous savez. Je sais que vous savez.
Ah bon?
Oui.
C'est quoi vos informations? Non, mais moi, de toute façon, je suis pas sur les réseaux sociaux, donc je sais pas trop.
Mais ça vous vient par l'entourage.
Oui, c'est vrai.
Ça existe.
Peut-être, c'est possible.
Ça vous gêne ce sujet?
Non, mais c'est vrai que je trouve pas ça très intéressant. Après, c'est...
Mes questions sont pas intéressantes, ça commence bien cette interview.
Bah, si on commence sur sexy lawyer, c'est vrai que c'est une manière de me mettre un peu mal à l'aise.
Mais... Non, pas du tout, c'est pas le but. Est-ce que vous avez reçu des propositions suite aux Oscars et à l'engouement qu'il y a eu autour de vos cheveux, par exemple?
Non.
Non? Pas de propositions?
Non.
Ok. Et pourtant, vous dites qu'en France, quand vous avez débuté, vous avez décroché des rôles grâce à votre tête un peu bizarre, dites-vous. C'est-à-dire des rôles de flics, de soldats. Donc là, il y a un hiatus culturel entre la perception de vous aujourd'hui aux États-Unis et la perception que vous avez de vous, de vos débuts.
Quand je dis ça, je pense qu'en effet, c'était ce physique un peu étrange qui fait que des gens avaient envie de me filmer. Je pense que c'est pour ça que j'ai travaillé un peu au début.
Mmh.
Maintenant, je me suis un peu normalisé, physiquement. Enfin, j'espère.
Ouais. Jusqu'à devenir sex symbole, hein, je vous rappelle.
Oui, mais ça, je sais pas. Je pense que c'est autre chose, ça. Mm-hmm. C'est autre chose qui a joué. C'est le personnage, en fait. Je pense que c'est sur la représentation de la masculinité, en fait. Je pense qu'il y a quelque mm-hmm. chose de très moderne, en fait, dans ce personnage. Enfin, même dans le film.
Dans Anatomie d'une chute,
mm-hmm. voilà. D'un coup, ça soulève, en fait, aussi des questions qui sont tout à fait des questions de notre époque. C'est-à-dire, c'est quoi le problème d'un couple où, en fait, c'est la femme qui réussit là où l'homme a échoué, mmh. Et c'est quoi d'un coup cet avocat qui est à la fois une sorte d'amoureux éconduit et qui pour autant va quand même un peu s'effacer et rester au service de cette femme. Donc je pense que ça correspond plus à ça en réalité.
Okay. Touchons un mot des Oscars puisqu'ils ont lieu bientôt, le 2 mars. Qu'est-ce qui vous avait frappé là-bas? Est-ce que vous en avez retenu quelque chose? Un souvenir, une impression?
Bon, d'abord, moi, j'étais jamais allé aux États-Unis, mmh. Donc c'était quand même très impressionnant. En plus, je venais de finir un film qu'on a tourné tout au nord de la Norvège, à un endroit où il faisait moins 25 degrés, très peu de soleil. Et voilà, je suis rentré 4 jours plus tard. J'étais à Los Angeles, sur des rooftops. Enfin, c'était absolument dément. Il y a quelque chose qui existe moins chez nous, c'est cette espèce de... Tout le monde vient nous saluer, tout le monde a vu le film, tout le monde est extrêmement enthousiaste, tout le monde dit mais c'est génial, vous êtes géniaux.
Mmh. Amazing.
Amazing, voilà. Donc nous parfois on s'en moque un peu, mais en tout cas juste comme ça, quelques jours à recevoir, c'est assez plaisant.
Une vague d'enthousiasme quoi.
Une vague d'enthousiasme, voilà, mais comme ça très... très généreux quoi, il y a pas de, on sent à aucun endroit, ça veut pas dire qu'elle existe pas, mais là en tout cas moi j'ai senti à aucun endroit la compétition.
Mm-hmm.
Après il y a encore autre chose, c'est que, et encore une fois évidemment qu'ils ont beaucoup de problèmes là-bas aussi, mais moi ce que j'ai vu là aux Oscars, c'était vraiment un mélange des genres hallucinant quoi, et donc toutes les couleurs de peau, les maigres, les gros, les handicapés, tout le monde est là, tout le monde monte sur scène et tout le monde est applaudi généreusement. Ça, j'ai trouvé ça assez fort.
Et puis, pourvu que ça dure.
Bon, voilà, je ne sais pas si on va vraiment se lancer là-dessus. Mais, et puis de voir tous ces gens qu'on a admirés, qu'on a vus dans des films depuis l'adolescence, de les voir en vrai, de voir Billie Eilish là, chanter une chanson là, devant. C'est assez fort, quoi, assez mouvant.
Ouais. Alors parlons théâtre à présent.
Ah voilà.
Swann Harlow. C'était un petit échauffement là.
Oui.
Ce soir, comme tous les soirs, vous êtes sur les planches du Théâtre de l'Œuvre à Paris, dans une pièce du dramaturge britannique Harold Pinter, le titre Trahison au pluriel, avec Marie Kaufmann, Marc Arnaud et Tobias Nuiten, mise en scène de Tatiana Vial. Je raconte l'histoire brièvement, c'est une triangulation amoureuse dans le Londres un peu arty, je dirais. Car votre personnage est agent littéraire, il entretient une liaison depuis 7 ans avec Emma, qui est une galeriste, et c'est la femme de son meilleur ami, éditeur. Alors l'histoire démarre au moment où Emma avoue à son amant qu'elle a tout dit à son mari, donc à son ami, l'ami de l'amant. Mmh. Trahison avec S, donc il y en aura d'autres. Alors Swann Harlow, tout se passe en apparence, tout ça, avec le plus grand des flegmes. Est-ce que tout se joue dans le langage ?
Oui, tout se joue en réalité dans les silences. C'est ça qui est assez fascinant dans cette écriture, c'est qu'en fait, les pauses et les silences sont assez précis. Ils sont marqués tout au long du texte. Évidemment, au départ, quand on apprend le texte, etc., on ne se penche pas trop là-dessus. Et puis, évidemment, au bout d'un moment, on commence à dire, bon, alors, quelles sont les pauses, quels sont les silences qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est quoi la différence entre une pause et un silence?
Dites-nous.
Bah, évidemment qu'un silence, c'est plus long, mais en fait, quelle longueur on donne à un silence quelle... Et puis, il y a ce saut dans le vide. Un silence au théâtre, c'est un saut dans le vide parce qu'il faut se méfier que l'autre ne pense pas qu'on a un trou de texte et du coup, se mettre à enchaîner. Enfin, voilà, c'est... Et en fait, cette écriture, en apparence très simple, très banale, d'un coup, dans les silences, rejaillissent comme ça, rejaillit le double sens, rejaillit le sens qui est entre les lignes. Parce qu'en effet, ils ne se disent rien vraiment. Donc c'est très plaisant à jouer.
C'est-à-dire que les couteaux sont dans les silences, un peu ? Les coups
oui.
de couteau ?
Ouais. Mais pas uniquement les coups de couteau, même le sens de ce qui a été dit, en fait. C'est-à-dire que parler d'une chose plutôt que d'une autre, mais en fait, pour dire une chose qu'on n'ose pas dire, bon, bah, à la première écoute, on n'entend pas. Mmh. Et puis si derrière, on laisse un long silence, d'un coup, on va se dire « Ah oui, mais en fait, c'est ça qu'il est en train de lui dire, mais en disant autre chose. »
Donc vous avez redécouvert le texte, parce qu'entre la lecture de la pièce d'Harold Pinter et ensuite, quand on met les silences, ça ne veut plus dire la même chose, alors ?
Oui, alors c'est pas tant qu'on l'a redécouvert, qu'on l'a décortiqué et que d'un coup, on a petit à petit amené et compris toute la complexité qu'il y avait. Il résonne plus, quoi.
C'est un peu l'inverse de la tragédie grecque, là. Parce que ça pourrait être une tragédie... Ciel, mon Dieu, mais non, là, c'est tout feutré, quoi.
C'est tout feutré.
Ça se passe comme ça dans la bourgeoisie intellectuelle londonienne ?
Ah bah, je sais pas.
Pinter lui-même appartenait à ce milieu, peut-être ?
Bah, en tout cas, oui, il appartenait à ce milieu, et lui, il était très, très, très militant. Quand il a reçu le Nobel, il a fait un discours, d'ailleurs ça vaut le coup d'aller voir, mais c'est vraiment très puissant, et donc c'est évidemment une critique. Alors Pinter, il parle d'une chose intéressante, il parle de la monstration, qui n'est pas la démonstration, mais qui est le simple fait de montrer. Et donc il n'émet aucun jugement, il montre une situation, sans dire voilà ce que vous devez penser. Il montre cette situation et dit « bah maintenant, vous en pensez ce que vous voulez ». Il y a un regard vraiment critique sur ces gens-là, sur leur cruauté. On est cruel avec eux. Et pour autant, l'idée étant d'avoir envie de les aimer quand même, puisque finalement, ils sont comme nous, des êtres humains, des menteurs. Ils sont faillibles, ils sont faibles. Mm-hmm. Donc, c'est être tendre tout en étant cruel avec les personnages. Mm-hmm.
C'est l'endogamie d'un milieu artistique londonien, on peut dire. Hein. Et il y a comme un miroir avec une autre endogamie, parce que cette pièce est montée par une entreprise familiale, on peut dire.
Oui, on peut dire, ouais.
Dites-nous, en quoi c'est une entreprise familiale ?
Donc Tatiana qui met en scène, c'est ma mère. Et Tobias qui joue un petit rôle dans la pièce, c'est mon frère.
Alors qui a engagé qui sur le projet ?
En fait, avec Tatiana, c'est la troisième pièce sur laquelle on travaille ensemble. Mm-hmm. on a réalisé un court-métrage, on écrit ensemble, enfin voilà, on a toujours travaillé ensemble depuis au moins 15 ans, je pense. Je dirais certainement qu'on y gagne du temps, parce qu'on se connaît très bien. Et on y gagne aussi, j'imagine, on se débarrasse de la pommade, quoi. C'est-à-dire que personne dit « Ah oui, oui, bien sûr, tu as raison, mais tu penses pas que... »
Ah, on ménage pas les susceptibilités,
ah,
bah par
non,
exemple.
Ah non, on ménage rien du tout. Ça tape vrai, juste, vite. Donc voilà, donc je pense que ça nous fait gagner beaucoup de temps.
Et pour monter Trahison, c'était une manière d'être en confiance.
Ah bah de toute façon, oui, travailler ensemble, c'est être en confiance. Et puis c'est... alors ça, c'est la manière aussi de travailler de Tatiana, c'est qu'elle elle donne beaucoup de liberté à tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde participe, tout le monde donne son avis. C'est vraiment un travail collectif. Mm-hmm. Et donc je pense que certainement, je pourrais être peut-être beaucoup plus frustré de travailler avec quelqu'un qui me circonscrit à mon espace de jeu, en me disant, là, tu fais ça, là, tu fais ça, là, voilà. Là, je peux aussi parfois me mêler de mise en scène et je peux tout à fait avoir tort et elle va me dire ah bah non ça. Mais voilà, il y a quelque chose qui circule. Et
Oui, ça permet aussi de vous mêler de ça en fait, parce que peut-être vous n'oseriez pas avec un autre metteur en scène et là vous.
Bah c'est
vous
possible.
Tentez,
ouais.
Bien sûr. Et dans ce personnage que vous interprétez, qui est agent littéraire, vous qui rêviez d'être écrivain, je pense.
C'est vrai.
Qu'est-ce qui vous séduit dans ce personnage-là ?
Il y a une grande naïveté. Au bout du compte, c'est quand même lui le dindon de la farce. Mmh. C'est lui qui était le moins au courant des trois. Et en même temps, il a un côté très nombriliste. D'ailleurs, s'il voit rien, c'est qu'il ne s'occupe que de ses petits problèmes. Il a toujours mal quelque part. Il y a son fils qui a fait une chute, puis il est tombé malade. Puis... Et en fait, on essaye de lui dire des choses. Les autres essayent de lui dire des choses, mais à demi-mot. Mais lui, il n'entend rien parce qu'il est sur ses petits problèmes. Voilà. Donc ça, c'est marrant à jouer.
Et il se refait l'histoire à l'envers.
Et ensuite, il se refait l'histoire pour comprendre là où il a raté des éléments. Et en fait, il a raté des éléments un peu partout. et puis...
Ça évoque une certaine tendresse, quoi, parce qu'on est tous un peu comme ça.
Mais oui, bien sûr. Oui. Et puis non, mais moi, c'est cette langue. J'adore jouer ça, en fait. J'adore jouer ça. Il y a beaucoup de répétitions, ça se joue vite. Il y a les silences, mais ça fuse. Et puis, il y a ce côté écriture anglaise. Et donc, d'un coup, on ne se comporte pas exactement pareil. Voilà, on peut comme ça s'asseoir dans des chaises et boire du vin blanc et croiser les jambes. Et je sais pas comment dire. Mais il y a quelque chose d'anglais. Et ça modifie aussi un peu l'endroit de jeu. Et je crois que finalement, mais ça, je m'en suis rendu compte assez plutôt tardivement. On avait déjà commencé à jouer. On m'a jamais donné l'opportunité de jouer ça. Moi, je fais souvent des personnages assez sombres ou très émotifs, à problème. Voilà, beaucoup de films un peu tragiques comme ça. Mm-hmm. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus enlevé, de beaucoup plus léger,
romantique,
drôle. C'est une partition qu'on me donne très rarement.
Voilà, le sexy lawyer est romantique, sachez-le. C'est un argument pour aller voir Trahison.
Mon Dieu.
Je ne vais pas vous lâcher avec ça. Swann Harlow, dans le cinéma, la réalisation, le montage, vous dites, ça bidouille évidemment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail de bidouillage, on peut dire. Découvrir le résultat est toujours surprenant. Et vous dites, une part de ce qu'on fait ne nous appartient pas. Est-ce qu'au théâtre, vous récupérez cette part ?
Ouais.
Ouais, vraiment, complètement ?
Complètement, je sais pas, peut-être pas toujours, mais en tout cas, là, oui, j'ai le sentiment. Ouais. Mm-hmm. Bah, c'est sûr qu'au cinéma, on est comme une pâte à modeler, on fait plein de trucs, on fait tout ce qu'on peut, et puis ensuite, c'est récupéré, on en prend un bout, on le met là, on transforme, en effet, donc ça nous appartient plus du tout.
Il y a une chimie derrière, ouais.
Ah ouais, complètement. Mm.
Alors, la perception du résultat, parce que les acteurs, les actrices peuvent se voir à l'écran au cinéma et ont une perception directe du résultat. Au théâtre, cette perception, elle se fait comment ?
Ben, il n'y en a pas. Moi, je n'ai jamais vu la pièce.
Hein. Et ça, c'est agréable ?
Oui, je crois, oui.
Ouais ?
Ouais, c'est pas désagréable, en tout cas. Mais c'est vrai que j'aimerais bien voir la pièce, mais je ne pourrais pas la voir. Mmh. Puis en plus, quand c'est filmé, le théâtre, c'est quand même vraiment moins bien. Mmh. Donc, vaut mieux pas regarder, parce que c'est assez déprimant. Non, par contre, il y a les gens, quoi. Il y a ce qui nous est immédiatement rendu par les gens. C'est-à-dire que nous, a priori, on donne quelque chose, on dépose quelque chose, et puis eux, ils le récupèrent et ils nous le redonnent.
Le sentez ?
Ouais.
Ouais.
Ah oui, vachement. Ah oui, vachement, parce que là, ça y est, ça commence à être plein tous les soirs, et on reçoit vraiment quelque chose de très fort, ouais.
Ah ouais.
Ah ouais. Ce qui n'existe jamais au cinéma. Enfin, au cinéma, on peut recevoir, mais très longtemps après. Donc on ne sait même pas pourquoi, on ne sait même pas à quel propos.
Mmh. Ouais, ouais. Des fois, on reçoit des vidéos de coréennes. Hein. Je dis ça, mais...
Ah, il y a peut-être des gens à qui ça arrive. Ça, allez savoir.
Il y a un truc très, très mignon. Votre premier cachet de cinéma, c'est à 9 ans.
Ouais.
Un petit rôle dans un film. Et racontez-nous, qu'est-ce que vous avez fait de ce cachet? Vous en rappelez, quand même?
Je pense que vous parlez des défraiements, en fait. On avait des sous pour manger
oui.
le soir.
Ah, c'était ça. Ah, d'accord.
Ouais, ouais.
C'est pas le
cachet. Non, parce qu'à 9 ans, on touche pas l'argent. L'argent, il va je sais pas où.
Il y a la CGT qui est sur le dos, les syndicats.
On touche pas l'argent.
Non, donc, vous aviez un défraiement.
On avait des sous, je sais pas, on avait 10 balles pour manger le soir ou 15 balles, enfin, j'en sais rien. Et donc, oui, j'avais fait un cadeau à ma grand-mère, c'est ça dont vous voulez parler?
Mais je pensais que vous l'aviez invité au restaurant.
Ah oui, je l'ai invité au restaurant.
C'est ça.
Oui, je l'ai invité au restaurant.
Votre grand-mère, trop mignon. Alors, est-ce qu'elle bossait dans le cinéma, elle, ou pas?
Dans le cinéma, non, mais elle était comédienne, chanteuse, journaliste. Elle a fait beaucoup de choses, ma grand-mère.
Ouais. Ok. Il faut remonter jusqu'où dans votre arbre généalogique pour pas avoir quelqu'un qui bosse dans l'art ou dans le cinéma?
Trop loin pour que je m'en souvienne.
Oui, c'est vrai.
Ouais.
Vous êtes un autodidacte, Swann Harlow. Quand on n'a pas de diplôme de comédien, etc., est-ce qu'il y a un moment où on se sent devenir comédien? On se dit ça y est, on s'octroie son propre diplôme.
Ouais, mais tard. Bah, il y a forcément un petit problème de légitimité au départ, enfin du fait justement que je vienne d'une famille de gens qui ont toujours travaillé dans le spectacle ou dans le milieu artistique. Donc on se demande si on mérite sa place pendant longtemps.
Quoi, on se sent pistonné ou quoi?
C'est pas uniquement la question du piston, mais c'est la question de la chance. Enfin, je veux dire, évidemment qu'il y a un facteur chance et qu'il est... Il est beaucoup plus évident d'arriver dans ce métier quand finalement, depuis trois générations, il travaille dans ce métier que quand on est fils d'ouvrier et qu'on vient de la campagne. Enfin, c'est sûr. En tout cas, il y a quelque chose qui nous semble plus accessible.
Et pourtant, la légitimité, vous la sentez arriver tard. Mais finalement,
tard,
comme beaucoup de comédiens et de comédiennes, non?
D'abord, c'est un métier qui est compliqué dans le sens où on commence à le faire vraiment quand on a vraiment du travail. Et ça met longtemps. Mm-hmm. Parce que faire des petits rôles, des petites choses, une fois de temps en temps, c'est très impressionnant. Et on n'a pas l'espace pour déployer quelque chose. Quand on commence à avoir des rôles importants, quand on commence à réussir à construire un personnage à l'intérieur d'une histoire, là, on commence à faire ce métier. Mais donc ça arrive tardivement.
Et chez vous arrivez à le dater, ça?
Oui, j'arrive à le dater, il y a 10 ans. C'est ni le ciel ni la terre et les anarchistes. Mm-hmm. C'est la même année, c'est deux films qui sont deux films dans lesquels j'avais des rôles secondaires où il y avait quelque chose à construire. Et là, j'ai eu l'impression que quelque chose démarrait.
Mm-hmm.
Ouais.
Et chez Rebecca Manzoni, dans Totemic, vous avez expliqué qu'il y a toujours un moment où on devient un peu trop sûr de soi. C'est quelque chose qui arrive dans une carrière. Ça aussi, est-ce que vous arrivez à le dater? Vous n'avez pas dit à quel moment? Qu'est-ce qui a fait que vous avez peut-être à un moment moins touché terre et qu'on a dû vous ramener?
Il y a un moment, je pense que je devais avoir quelque chose comme 28 ans, où j'avais fait une série pour Arte qui s'appelait Xanadu. Je jouais une espèce de personnage, c'était la, sur une famille dont le patriarche était genre Marc Dorcel, quoi. C'était une famille dans le porno et le dernier des enfants était une sorte de réalisateur porno un peu expérimental. Et donc c'était un personnage très bizarre, le réalisateur m'avait demandé de tout jouer au ralenti. Et à ce moment-là, je me suis vraiment dit, waouh, putain, c'est trop bien, t'es trop fort et tout. Je pense que à ce moment-là,
C'était avant de vous sentir légitime comme comédien, ça, alors.
Ouais. Non, mais j'ai ressenti
les choses à l'envers.
Ce truc un peu grisant que peut donner ce métier parfois. Et la série a vraiment pas marché du tout, mais du tout. C'est un énorme bide. Et quelqu'un avait écrit un article. Donc moi, je jouais très lentement.
Ouais.
Quelqu'un avait écrit un article dont le titre en gras était Swann Harlow le boulet. Et dans l'article, il y avait « On aimerait avoir une télécommande pour accélérer les séquences où il apparaît. »
À chaud.
Et donc, ça m'avait remis, ça m'a remis à moins 10, je pense. Donc, je suis reparti de là après.
Oh, vous étiez calmé, quoi.
Ouais, ça calme.
Ouais, évidemment. Ouais. Et pour ce film, « Les anarchistes » d'Eli Wajman, vous avez lu de nombreux auteurs anarchistes, notamment Proudhon ou Bakounine, parmi les plus connus. Ça vous a bousculé, ces lectures?
Oui, c'est un moment où il s'est passé quelque chose avec cette... Ouais, parce qu'après, j'avais une espèce de rage adolescente comme ça, le rapport aux injustices et tout. Et puis d'un coup, j'étais en train de devenir, j'étais un jeune adulte. Et d'un coup, j'ai lu ça et je me suis rendu compte, en fait. Je me suis rendu compte à quel point toujours ceux qui avaient œuvré pour une meilleure société, plus juste, plus égale, comme ils avaient toujours perdu, quoi. Toujours. Voilà. Et comme j'étais pas très bon en histoire à l'école et tout ça, j'ai dû reconstruire, j'ai dû comprendre. Je comprenais pas la Commune, les Versaillais, parce que le personnage était un enfant de communard qui avait dû fuir les Versaillais, qui était parti en Espagne. Et je voulais comprendre. J'ai dit, mais alors, attends, c'est quand Napoléon, c'est quand la Révolution par rapport à ça? Donc je me suis refait un peu ce siècle-là. J'ai lu ses bouquins, l'invention du terrorisme, enfin voilà. Et puis quand même des gens absolument brillants, quoi, qui d'un coup m'ont donné à lire quelque chose qui résonnait évidemment en moi, mais sur lequel j'étais pas capable de mettre des mots aussi concrets, et ni de mettre de l'histoire. Mmh. Voilà.
Ah oui. Et cette rage adolescente, elle vient d'où alors? Parce que ça a réveillé quelque chose en vous, mais ça a réveillé quoi?
Je sais pas.
C'était quoi? Ouais, vous savez pas?
Non.
Graffeur, rappeur, c'était cette période-là aussi? Vous étiez à l'époque, vous étiez à Rambouillet?
Ouais, dans les Yvelines, ouais, pas très loin de Rambouillet, ouais. Ouais.
Mais qu'est-ce qu'on tague à Rambouillet?
Des voies ferrées, des dépôts de train, des autoroutes, puis Paris n'est pas très loin.
Mmh. Et récemment, vous avez joué dans une série politique, Dans l'ombre, que je recommande chaleureusement, j'ai beaucoup beaucoup aimé, tiré d'un livre écrit par Édouard Philippe et Gilles Boyer. Alors je me posais cette question naturellement, est-ce qu'il est meilleur comme scénariste que comme Premier ministre, Édouard Philippe?
Je sais pas, il est pas scénariste en tout cas, il est pas scénariste sur la série, ils ont, je crois, surtout participé au dialogue.
Mmh. Ah oui.
C'est un bouquin qu'ils ont écrit en 2011, que Pierre Scholler a vraiment adapté, hein. C'est vraiment une adaptation, il y a des choses assez différentes du livre, et je crois qu'ils ont participé à la véracité des dialogues, en fait.
Mm-hmm. Vous voulez un soft?
Moi, je prends une grenadine.
Une grenadine? Ouais. Oh, trop mignon. Mon invité va prendre une grenadine.
Bonjour.
Mais sans paille et sans glaçons. Et moi, je vais prendre une camomille, un truc chaud.
Pisse mémé, alors.
Pisse mémé.
Bah... Non, c'est juste pisse mémé.
Toute ma street cred vient de partir avec ce mot. On était parti sur les raps et les graffitis de Swan Arlo et on est passé à Pisse Mémé d'un coup.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, c'est l'Happy Hour. Venez prendre l'apéro avec Swan Arlo, qui joue actuellement au Théâtre de l'Œuvre une pièce d'Harold Pinter, Trahison, que je vous recommande chaleureusement. On a évoqué vos lectures assidues de textes anarchistes. Vous vous êtes aussi distingué en soutenant le mouvement MeToo, les Gilets jaunes, la reconnaissance de l'État de Palestine. Je trouve que c'est vraiment pile tout ce qui fait vraiment flipper les réalisateurs.
Peut-être qu'il n'y a plus que les gauchos qui m'appellent, j'en sais rien, je ne sais pas.
Ouais.
Non,
vous
en tout cas,
pas savoir.
En tout cas, je n'ai pas de problème pour travailler, ça c'est sûr.
Ouais, ouais. Vous avez bien connu... ce qu'on appelle la bande à Jean Carmet. Mmh. Jean Carmet était comme un grand-père pour vous, c'est ça? Mmh. C'était donc aussi la famille. Vous avez connu donc de l'intérieur ceux qui nous ont fait rêver. C'était comment ça vous a nourri, ça?
Bah, moi, j'étais un enfant, donc c'était juste une bande d'imbéciles qui faisaient des blagues. Enfin, j'ai compris plus tard.
Il y a une nostalgie de ça ou pas? Parce que nous, on peut, les spectateurs, on peut être nostalgiques. Et vous qui l'avez connu de l'intérieur, est-ce qu'il y a la même nostalgie?
Non, j'ai pas de nostalgie. Ouais, ces espèces de bonhommes comme ça, qui picolaient, qui faisaient des blagues, il y en a qui me faisaient peur.
Ah oui, il y en a qui vous faisaient peur?
Depardieu me faisait peur quand j'étais petit, ouais.
Il y a un regret de ne plus pouvoir jouer avec lui?
Non, je crois pas. Non, il n'y a pas de nostalgie, il y a ce plaisir que j'ai eu, mais en fait, après qu'il soit mort, à regarder tous ces films, voilà, mais ça concernait aussi d'autres gens qui n'étaient pas forcément dans cette bande-là, c'était pas forcément des gens que j'avais vus quand j'étais gamin, mais... c'est une époque, en fait, c'est une époque sur les dialogues, sur ce jeu qui est plus du tout comme ça aujourd'hui. Mais ça me manque pas. Enfin, je veux dire, ces films-là, ils existent encore. Je les revois parfois. Mm-hmm. Ouais, y avait un film que j'aimais énormément quand j'étais ado, que je regardais beaucoup, c'était Loulou de Piala. Et vraiment, je l'ai revu il y a quelques années et ouf, ça a pris un coup. Mm-hmm. D'un coup, le film apparaît comme très misogyne. Aujourd'hui, quand on le regarde aujourd'hui, mm-hmm. on se dit, mais c'est dingue quand même. Alors qu'à l'époque, je m'étais jamais posé ces questions-là, quoi.
On le regarde aujourd'hui comme un témoignage, en fait, comme une trace historique, sociologique, quoi.
Ouais, ouais,
ça sert aussi à ça,
ouais.
Le cinéma.
Ouais, ouais.
Et votre premier court-métrage, il s'appelait Vénerman, c'est ça ?
Ouais, c'est un jeune blanc qui veut devenir noir, et ouais. Dès qu'il se retrouve dans des situations qu'il n'arrive pas à gérer, il devient noir, et il les gère avec brio. C'est pour ça, Vénerman, il y a un peu côté super-héros, un peu magique, donc il se transforme, quoi.
Mm-hmm.
Voilà.
D'accord. Et donc ça, c'était un peu vous, parce qu'à l'époque, vous sortez d'avoir fait, on l'a dit tout à l'heure, du grave, du rap, etc.
Alors, c'était pas moi, c'était mon frère, en fait. C'est mon frère qui joue dans le film, et mm-hmm. c'est mon frère qui a traversé ça à l'adolescence, vraiment. Voilà, où il considérait que lui n'avait aucun mérite à réussir quoi que ce soit, puisqu'il n'était pas né dans la difficulté, ou puisqu'il n'était pas victime de racisme ou d'injustice. Et que, mm-hmm. et donc, mais c'était quelque chose de très fort chez lui, qui était révélateur d'autre chose. Mais, et on a trouvé que ce sujet était à la fois politique et à la fois drôle.
Mm-hmm.
Donc on a décidé d'en faire un film. Et après, à travers ça, j'ai certainement aussi raconté un peu des choses de moi, mais moi, je n'ai pas traversé les choses de cette manière-là.
Est-il vrai que vous avez tenté de faire un stage en gendarmerie ? Vous avez eu votre période un peu gendarme ? J'ai du mal à croire.
Je l'ai fait pour un film.
Ouais. Ah d'accord.
Ouais.
C'était pas une volonté.
Oh là là. Non, alors ça, j'ai jamais eu.
J'avais jamais eu cette envie. Je me disais aussi.
Aucun risque. Mmh. Non.
Et donc, pour un film, ça vous a obligé d'aller voir de ce côté-là, quoi.
Ouais, j'ai fait un film qui s'appelle Perdrix de Erwan Leduc, où j'étais capitaine de gendarmerie dans une petite ville de province, des Vosges, pardon. Mm-hmm. Et j'ai pensé qu'il fallait que je fasse un petit stage en gendarmerie pour savoir comment jouer ce personnage. Donc j'ai été à la gendarmerie dans ma banlieue, j'ai été les voir en leur disant « ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ».
Ah, parce qu'avant, ils vous chopaient en train de taguer ou pas ?
Oui, ça m'est arrivé. Et donc c'était marrant. Et puis c'était un film qui parlait d'amour. Et donc j'ai passé 3 jours avec eux, à les suivre, à aller bouffer avec eux et tout. Et puis un jour, le dernier jour, j'ai demandé à ce qu'on puisse faire une réunion tous ensemble. J'avais des questions à leur poser. Et donc on a été au sous-sol, il y avait une espèce de table, une grande table ovale comme ça. Ils étaient tous là. Et moi j'avais ma liste de questions, et notamment des questions sur l'amour. Et du genre, je sais pas, si vous arrêtez quelqu'un, mais que vous avez un coup de foudre et tout, est-ce que quelque chose est possible ? Enfin, vraiment, j'ai quand même un souvenir de ce moment assez extraordinaire.
Ça alors ?
Ça, c'était génial.
Mais ils vous ont répondu ? Ils ont accepté
ils m'ont répondu,
parce qu'il faut fendre un peu l'armure pour
parler. Ils m'ont répondu. Après,
ça.
Ils ont répondu ce qu'ils voulaient bien répondre. Ah, hein, ouais. Est-ce qu'ils ont dit la vérité ? C'est improbable comme moment, mais c'est ça qui est merveilleux dans ce métier, c'est que parfois, on a droit à des situations improbables. On nous ouvre les portes.
Oui,
pour
bien
ça.
Sûr.
Heureusement qu'il n'y avait pas de paille dans cette grande ville.
Et oui, pourtant, on a demandé spécifiquement.
On va faire. Tout ça sans paille.
Est-ce que vous avez déjà fait grève sur un plateau de tournage ?
Ah, non, je crois pas. Non, je crois
vous n'êtes pas sûr ?
Je suis pas sûr parce que ça... Non, je crois pas.
Et puis aujourd'hui, on a souvent l'impression que, en politique, la réalité dépasse la fiction. Est-ce que ce serait pas le moment de mettre votre talent d'acteur au service de la politique ?
Ah non. Ah non. Ah non, non, bah déjà, j'y connais rien. Je vois pas ce que j'irais faire là. Et puis, ça suffit, je mens déjà dans mon métier. Je vais pas aller mentir dans un autre métier. Non, mais je veux dire, je vois pas le... Moi, en fait, c'est mon travail. On me dit merci pour ça. Je vais pas aller faire un endroit où on se fait... Voilà, non.
Bah vous mentiriez bien, au moins on y croirait, parce que là ils mentent et
ah, c'est vrai qu'eux on n'y croit pas.
On n'y croit même pas.
Ça. Bah oui, mais ils s'en foutent.
Oui, mais si au moins ils jouaient bien, on aurait. Au moins ça, ne fût-ce que pour nous respecter. Mais on n'est même pas respecté à ce niveau-là.
Non, ça, on n'est pas respecté, ça c'est sûr.
Est-ce que vous vous rappelez de votre texte de jeunesse, Swan Harlow, quand vous écriviez des textes pour du rap, en fait?
Ah oui, je m'en souviens. Ça m'arrive de le faire encore un peu chez moi, comme ça, parfois.
Ouais. Ouais. J'ai retrouvé trois lignes.
Non.
Non, vous n'êtes pas obligé de rapper, vous pouvez les lire.
C'est quoi ces lignes?
Elles sont là, ça commence par « C'est pour le 7-5 ».
Oh mon Dieu, mais où est-ce que vous avez trouvé ça?
Si vous voulez, on fait une mini-pause. Comme ça, vous avez le temps de regarder.
Non, mais je le connais.
Ah, vous connaissez par cœur?
Oui, je le connais. Mais où est-ce que vous avez trouvé ça?
Alors, dans un entretien, dans un vieil entretien, probablement. Ah ouais, vous êtes lâché quand même.
Quelle impudeur.
Vous voulez bien nous le lire?
Bah, je bien, oui.
Moi, je trouve ça très joli. C'est plein d'allitérations et tout. Ah, mais vous le connaissez par cœur?
Oui, je connais.
Trop fort, allez-y.
C'est pour le 7-5, le 7-8, pour notre secte, ou les fesses, pour les sectaires, pour les sectes, les sages, les sanctuaires, les respectueux, les sévères, les pères, les mères, les vertus, les bons, les mauvais, tacatriers. Voilà, quelque chose comme ça.
Exactement, ouais. C'est exactement ça, parce que je l'ai tapé tout à l'heure. C'est bien joué, Swan Harlow, dites donc. Swan Harlow est au théâtre, dans une pièce d'Harold Pinter. C'est au théâtre de l'œuvre, avec Marie Kaufmann, Marc Arnaud et Tobias, moi je vais dire à la belge, Neuten. Et puis je vais vous donner les horaires, évidemment.
Attends, c'est du mercredi au samedi à 21h et le dimanche à 18h, jusqu'au 30 mars.
Merci Swan Harlow.
Mais merci Charline.
Ainsi s'achève Bistroscopie, dont vous pouvez écouter les précédents épisodes sur l'application Radio France. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, à Étienne Bertin et François Audouin à la réalisation, merci à Marc Garvenès à la technique, et à Clément Berman au mixage et merci à Noémie Boncourt à la documentation. On se retrouve samedi prochain à 19h20.